Média francophone public.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. La semaine dernière, vous avez été nombreux à réagir à cette rencontre entre l'ancien président François Hollande et l'auteur camerounaise Djaili Amadou Amal, finaliste du prix Goncourt. Aujourd'hui, un autre finaliste avec un livre dont tout le monde parle et un voyage à Naples et en Argentine après la mort de Diego Maradona. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
L'émotion est mondiale après la mort de la légende du foot en Argentine, mais aussi à Naples. Naples, où le grand plasticien Ernest Pignon Ernest a vécu et où il a investi l'espace urbain napolitain pour ses collages. L'un de ses livres en témoigne. Il vous racontera ses souvenirs autour de Diego Maradona. Nous irons aussi à Buenos Aires, dans la librairie franco-argentine, avec l'une de nos libraires qui vous conseillera un livre autour de ce dieu sportif. Hervé Le Tellier a secoué la rentrée littéraire avec un roman étonnant entre la science fiction, l'anticipation et la critique sociétale. L'Anomalie est finaliste pour le prix Goncourt. L'auteur sera en plateau avec nous. Nous serons aussi avec la dessinatrice suisse Léonie Bischoff, qui publie une énorme BD sur la vie de la sulfureuse Anaïs Nin. Femme libre, complexe et sexuelle, elle a été l'une des premières femmes à écrire des ouvrages érotiques. Et pour notre séquence 15 ans, vous entendrez aussi la comédienne Annie Dupéré pour un livre de photos qui vient de sortir en poche et qui vous donnera peut-être une jolie idée cadeau à petit prix. Et si Noël était cette année plus raisonnable, moins consumériste, avec de petits cadeaux achetés dans de petits commerces, chez les libraires par exemple. Bonjour Mathieu Colombe.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes d'accord avec ça, je suppose?
Ah ben, je ne peux être que d'accord. Je vois ça de même d'un très bon œil.
Vous représentez la France, Mathieu. Vous êtes libraire à Aix-en-Provence. Ça y est, les librairies rouvrent leurs portes ce week-end en France, mais on risque de faire la queue pour rentrer à cause des jauges très strictes, hein, je crois.
Oui, tout à fait, tout à fait. On va être amené à vraiment plus de contrôle. Je pense que ça va être assez compliqué parce que les gens attendent ça depuis maintenant un bon moment et oui. Ça risque de se presser au portillon samedi très très fort.
Bon, Claire Renaud est à Genève. Elle est toujours ouverte, elle, pour représenter la Suisse. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Faisons nos cadeaux en librairie et dans les commerces de proximité cette année. Vous êtes aussi d'accord et vous portez cela.
Oh oui, 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 oui. Et j'ai été très solidaire avec les librairies françaises. J'ai trouvé vraiment dommage qu'ils n'aient pas pu rester ouverts. Hein. Et puis voilà.
Oui, je sais. Bon, on oublie les grands sites internet et on en fait moins cette année. On explique aux enfants et tout ira bien. Bonjour Nathalie Clairin.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie de la Mazrine à la Hulpe en Belgique. Il y a du monde en ce moment chez vous?
Ah oui, ça n'arrête pas. Ça n'arrête
pas. Tant mieux.
Un plaisir.
Au Canada, on retrouve Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête à Montréal. Je suis sûre que vous avez plein d'idées cadeaux à proposer en ce moment, Katia.
Mais nous sommes submergés d'idées cadeaux, oui. Et on est très chanceux, évidemment, d'être ouverts depuis tout ce temps. Et on a eu de bonnes pensées aussi pour les libraires en France, évidemment.
Bon, merci beaucoup à tous les quatre d'être avec nous. Vous interviendrez bien sûr tout au long de cette émission. Et on part en Argentine, dans la librairie franco-argentine, Les Mille et Une Feuilles, Las Mille y Una Horas. Bonjour Monica Freire.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez déjà participé à la librairie francophone. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir à distance depuis Buenos Aires. Entre effervescence et émotion, quelle est l'atmosphère à Buenos Aires en ce moment, Monica, après la mort de Maradona?
Alors, c'est la tristesse, l'amertume, les gens n'y croient pas. Puisque Maradona, Diego, il est parti finalement. Et puis, parce que ça fait déjà 20 ans qu'il était malade. Et à chaque fois, on pensait qu'il allait partir. Et non, il ne partait pas. Donc, on croyait vraiment qu'il allait survivre à tout.
Ouais, c'est un véritable drame national. Et c'est vrai que quand on regarde ça un peu à l'extérieur, en dehors de l'Argentine, on se dit que c'est presque exagéré, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Non, je pense que non.
Et oui, et non.
Ça fait partie de notre ADN.
Et oui.
Tout le monde est pas seulement ému, c'est tellement fort. Par exemple, Emmanuel, dans les rues, on se balade et on voit que les gens ils sont préparés des hôtels où il y a une image de Diego, où il y a n'importe quoi qui dit le 10. même dans l'autoroute, il y a les panneaux lumineux qui disent « Merci Diego ». Ça fait partie de notre ADN.
Eh oui.
Il faut savoir que quand on se balade dans le monde, quand vous dites « Vous êtes Argentin ou Argentine », ils disent « Maradona ». N'importe où, c'est Maradona, c'est notre synonyme, donc on le comprend.
Alors, vous lui rendez bien sûr hommage hein, en ce moment dans votre librairie. Alors justement, on vous a demandé si on veut lire un livre autour de Maradona, en français ou bien traduit dans le monde entier, exceptionnellement. Lequel conseillez-vous, Monica, à tous les auditeurs francophones ?
Alors, il y a Maradona, ma vérité. C'est deux journalistes qui l'ont aidé à écrire tout ce qu'il raconte, et c'est très intéressant. Mais il y a aussi un autre qui vient de sortir, je pense que bientôt, c'est juste le mois d'octobre, et s'appelle Dios. C'est des chroniques, des anecdotes, et voilà.
Merci beaucoup, Monica Freire.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt. Je rappelle que vous êtes libraire à la librairie Les Mille et Une Feuilles à Buenos Aires. Bon week-end en Argentine avec nos pensées solidaires, bien sûr, pour le peuple argentin, vraiment très triste depuis mercredi.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona.
Sur cette musique de Manu Chao, sortie en 2007 en hommage à Maradona, on rejoint le plasticien français Ernest Pignon Ernest, ami de la librairie francophone. Bonjour Ernest.
Bonjour, bonjour Emmanuel. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez vécu et travaillé à Naples. Votre livre « Visage de Scampia » paru en 2018 en témoigne. Entre autres, vous avez connu Naples à l'époque de Maradona et vous alliez au stade. Quel souvenir en gardez-vous ?
À ce moment-là, oui, j'ai eu cette chance d'arriver quand Maradona fait gagner le premier calcio à Naples. Et puis j'ai assisté au second aussi en 90. Quoi. Vraiment, c'est comme disait Monica... C'est l'ADN de Naples aussi, Maradona. Cette ville a une espèce de sensualité que Maradona a incarné.
Ouais.
Vous voyez, je veux dire qu'il a vraiment incarné les gens du Sud, la pauvreté et une espèce de joie en même temps. Vous voyez, c'est cette pauvreté napolitaine qui a une espèce de lyrisme comme ça, très charnel.
Oui, c'est ça. C'est qu'il avait permis à Naples, en fait, d'avoir un club de foot au premier plan. À contrario des autres villes italiennes beaucoup plus riches, Naples, la pauvre Naples, avec quand même la mafia, mais en tout cas la ville pauvre, avait réussi le challenge du foot grâce à Maradona.
Absolument, parce que les vedettes Platini ou Rummenigge étaient à Milan ou à Turin.
Et
vous
oui.
savez, excusez-moi pour le vocable, mais dans le Nord, la Ligue du Nord traitait les Napolitains de bougnoules. Hein. C'était vraiment un racisme. Quand il était question qu'ils gagnent le championnat, ils disaient « Oh, ils vont gagner le championnat d'Afrique du Nord ». Vous voyez,
qu'il y avait
ça. Et alors, ça a été un raz-de-marée de joie. J'ai vu des rues peinte en bleu en quelques heures sur 5-6 mètres de haut. Vous voyez le bleu et ce bleu. D'ailleurs, c'est incroyable cette conjonction parce que le maillot de l'équipe de Naples est bleu ciel comme le voile de la Vierge, quoi.
Ouais,
vous voyez.
Ouais.
Et lui arrive avec son nom Maradona. Vous savez, il a un peu joué là-dessus. Une fois à la fin d'un match, j'ai entendu un reporter lui dire « Alors votre but, vous l'avez dédié à je sais plus à qui. » Il dit et Maradona dit non, mais les buts, ils sont tous dédiés à ma mère. Vous voyez, vraiment là, il fait pleurer tout Naples. Quoi.
Alors, Maradona à Naples, c'était plus qu'un joueur de foot. Vous qui faites des collages sur les murs du monde, Ernest Pignon Ernest, Maradona est sur de nombreux murs de la ville, des murs qui sont devenus sacrés, encore plus aujourd'hui, je suppose.
Oh, sûrement. Moi, j'y suis allé il y a 3-4 mois, dans le quartier espagnol, il restait la grande fresque avec son maillot bleu ciel qui date de la fin des années 80. Il y en a une nouvelle dans le quartier de Scampia. qui a été réalisé il y a 2-3 ans, splendide. Mais c'est des Maradona de 10-15 mètres d'eau. Hein.
Oui,
c'est,
oui.
C'est ça.
Et pourtant, Ernest Pignon-Ernest, Maradona n'a pas suivi un droit chemin, comme on dit. C'est à Naples qu'il dérape avec la mafia, les réseaux de prostitution, la drogue à outrance. Les Napolitains lui en ont voulu hein, quand il est parti, quand il a quitté le club, justement par rapport à ses frasques. Mais on a l'impression que très vite, et aujourd'hui évidemment, ils ont tout oublié.
Oui, c'était pas seulement ça. Il se trouve que il a contribué à l'élimination de l'Italie sur le terrain même de Naples.
Vous savez,
dans la Coupe du Monde qui a suivi.
Oui, c'est vrai.
Et donc là, les Napolitains étaient partagés. Moi, j'en ai connu qui du coup devenaient argentins. Hein.
Ah,
soutenaient l'équipe d'Argentine pour soutenir. Voilà. Ouais. Mais quand même là, c'est lui qui a contribué à une. Alors il y avait ça parce que sinon, je crois que pour les dérives. Les Napolitains sont d'une tolérance absolument incroyable. Quoi.
Ah oui.
Je crois qu'ils ils n'en veulent pas à tout le monde. Tout le monde a un peu touché. Enfin,
a trempé quelque part, oui. C'est ça.
Ouais, un peu, je crois. En tout cas, vous savez, à Naples, c'est la seule ville peut-être du territoire chrétien où il n'y a pas eu d'inquisition. Quoi, vous voyez. Voilà, c'est une grande liberté.
Ernest Pignon-Ernest, avez-vous envie de faire un travail artistique sur Maradona comme vous l'avez fait avec Pasolini, par exemple?
Ouais, c'est difficile. J'aurais bien aimé. Hein. J'y ai pensé quelquefois à Naples, mais je voyais pas. Peut-être il me faut un peu de distance, quoi. Vous voyez.
Ouais, faut attendre un peu.
Comment exprimer dans une image ce qu'il a incarné.
Et vous avez réussi avec Pasolini.
Oui, j'ai fait. Mais j'ai mis longtemps, vous savez, à faire cette image de Pasolini qui arrive avec son propre corps mort dans ses bras, cette espèce d'autopietà. Et trouver les lieux où ça prend plus de sens, quoi. Vous savez, je prends tellement en compte l'endroit où je l'ai fait apparaître. Voilà.
Bon.
Serait bien, en effet.
Ce serait bien, hein, voilà.
Je retourne à Naples avec Maradona.
Oui, il faut le faire. Il faut le faire, Ernest.
C'est une bonne suggestion, je vous remercie.
Je vous en prie. Merci, Ernest. On pense aussi, puisque l'on parle de grands sportifs, à la mort soudaine du Toulonnais Christophe Dominici. Le monde du rugby est en deuil, en France et partout dans le monde, et dans sa région tout particulièrement, du côté de Toulon. Merci, Ernest Pignon-Ernest, pour ce témoignage sur Maradona.
Merci, j'étais heureux d'être avec vous.
Mais moi aussi. Vous venez de publier avec Lionel Trouillot un livre sur Jean Ferrat dont nous parlerons prochainement avec vous, si vous êtes d'accord. On fera ça dans quelques semaines.
Avec grand plaisir.
Vous reviendrez. À bientôt.
À bientôt.
Merci,
à bientôt,
Ernest.
Merci. Et cette sorte de rebelle que vous fûtes et que vous demeurez par certains aspects, vous a-t-elle conduit à épouser les thèses du féminisme?
Je n'aime pas le militarisme, enfin, du féminisme. Je ne crois pas à déclarer la guerre à l'homme, par exemple. Je crois que l'homme a les mêmes problèmes, est victime des mêmes choses que la femme. Mais il y a certaines injustices professionnelles que j'aimerais voir. J'aimerais voir des femmes metteurs en scène. Je voudrais voir les femmes qui ont des revues intelligentes, qui font des commentaires politiques.
Sur cette voix d'Anaïs Nin, piochée dans les archives de Radio-Canada, on rejoint Bruxelles, où se trouve en ce moment la dessinatrice suisse Léonie Bischoff. Bonjour Léonie.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes bien installée dans nos studios de la RTBF ?
Très bien, merci.
Parfait. Vous publiez une sacrée bande dessinée sur Anaïs Nin chez Casterman. 8 ans de réflexion et de travail pour montrer la personnalité de cette écrivaine sulfureuse. C'est l'une des premières à avoir écrit l'érotisme. Une femme qui voulait aussi s'affranchir des normes et de la domination masculine.
Oui, tout à fait. Je crois que l'extrait que vous avez choisi est particulièrement intéressant parce que son féminisme, qu'elle ne revendiquait pas du tout, pour moi, il se situe justement dans cette affirmation de vouloir mettre en avant des voix de femmes. Elle parle de réalisatrices, elle parle de critiques, mais des voix d'artistes aussi. Et on constate aujourd'hui l'importance de mettre en avant des voix différentes, des voix dominantes qui ont fait les codes de la culture.
Ouais, c'est ça. Elle voulait bousculer les codes, Anaïs Nin.
Née
en France en 1903 d'un père cubain et d'une mère franco-danoise. Elle passera une partie de son enfance aux États-Unis avant de revenir en France avec son mari Hugo qui travaille dans la finance. Et là, elle rencontre Henry Miller, un grand auteur qui sera reconnu après. Et elle commence à écrire. Mais depuis toujours, elle tient un journal. Qu'est-ce qu'elle y raconte dans ce journal?
Ce journal, il a commencé comme des lettres à son père qui était parti, que la famille avait quitté. Et elle voulait d'abord le convaincre de les rejoindre aux États-Unis. Et sa mère ne l'a pas laissé les envoyer. Et petit à petit, c'est devenu une sorte de carnet de confidences où elle raconte d'abord ses émotions, sa découverte des États-Unis en tant que très jeune fille, très jeune adolescente. Et petit à petit, ça devient un outil d'introspection, d'analyse du monde et d'elle-même. Et ça ne va plus la quitter. Toute sa vie, elle va écrire tous les jours. Elle a écrit des milliers de pages. Mmh. Et sans avoir, dans un premier temps, du tout l'idée de les publier. C'est vraiment un outil très personnel, un confident et même une drogue.
Comme oui, c'est ce qu'elle dit. C'est son miroir, sa drogue. Est-ce que sans lui, elle aurait basculé à en devenir folle, d'après vous ?
J'ai l'impression, et elle le dit assez souvent, elle se sent elle-même folle, elle est assez instable par moments, et effectivement ce journal est à la fois une bouée de secours, quelque chose qui lui permet de prendre un peu de distance, d'avoir un peu d'humour ou de recul sur elle-même. Elle se relie aussi beaucoup et elle peut rire de ce qu'elle écrivait quelques semaines ou quelques années avant, et puis à d'autres moments retrouver des forces en relisant ce qu'elle a écrit. Mmh. Elle est dans une forme presque d'autosuffisance d'un côté, tout en étant d'un autre côté toujours très dépendante des autres et en particulier des hommes. Elle est très ambiguë.
Oui, en tout cas incontrôlable. Hein. Elle tient à sa liberté comme ça, tout en respectant
absolument
les conventions quand même. Elle les respecte, l'air de rien. Elle ne veut pas tromper son mari par exemple, mais veut jouir de la vie et céder à toutes ses tentations. Alors elle ment. Elle ment sans cesse et elle s'offre aux hommes qu'elle rencontre.
Oui, elle s'offre, elle les choisit, parfois elle les subit aussi,
oui,
surtout au début de sa vie. On voit qu'elle a, il y a cette culture de la disponibilité du corps des femmes par rapport aux hommes. Elle est vraiment très empreinte de ça. On voit qu'elle laisse faire par moments à son corps des choses qu'elle ne souhaite pas du tout,
ouais,
et sans vraiment s'en choquer. Il y a une forme de détachement. Et tout en ayant cette sorte de détachement de son corps, elle sent en elle-même une sensualité qui ne demande qu'à sortir.
Ouais, c'est ça.
Et c'est effectivement un peu avec Henry Miller qu'elle va pouvoir la découvrir. Mmh. Mais il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qu'elle portait en elle depuis l'adolescence.
Mmh. En cachette, bien sûr, de son mari, elle vit une désaventure avec Henry Miller. Elle se laisse toucher, caresser, frotter, embrasser par les hommes. Et souvent, ça va bien plus loin, avec un prof de danse, avec un cousin, ou même avec un psy. Écoutez son témoignage.
C'est très vrai que les règles n'ont pas été tout à fait suivies. Mais il ne faut pas blâmer l'analyste, il faut me blâmer à moi, parce qu'une enfant qui a perdu son père est très préoccupée justement de séduire et de charmer tout le monde, parce qu'il faut qu'elle se prouve vraiment que ce n'est pas pour cette raison-là que le père est parti. Mm-hmm. Alors, ils étaient en face d'un danger et ils se sont laissés prendre.
Voilà, Léonie Bischoff, c'est exactement ce que vous racontez hein, dans votre bande dessinée, à votre façon, avec ce personnage Hugo, son mari, qu'elle trompe donc régulièrement. Hugo, le pauvre, hein, qui est trop inexpérimenté pour elle, trop féminin, il est surtout gentil et délicat.
Oui, et très amoureux et tolérant, parce
eh oui,
que
oui.
On a pu, dans certaines biographies, lire des interprétations où il est vraiment le pauvre mari cocu, aveugle et inconscient de tout ce qui se passe. Moi, ma lecture est un peu différente de ça, parce qu'on sait quand même qu'ils avaient un arrangement dès les années 30 où ils avaient droit chacun à un soir de liberté par semaine. Donc, il est quand même bien conscient de ce qui se passe. Ils sont plutôt dans une forme de se laisser des espaces de liberté sans trop savoir.
Ouais, ils ferment les yeux.
On ne sait pas trop si lui a profité tant que ça de sa liberté. Il est surtout très conscient qu'Anaïs a besoin de cette liberté et de ce secret pour ne pas dépérir.
Allez, les libraires, Léonie Bischoff avec la France et la Belgique ont lu votre bande dessinée. On commence par la France, Mathieu Colombe.
Oui, eh bien écoutez, moi j'ai trouvé cette biographie romancée et sélective extrêmement intéressante. Déjà, je trouve qu'elle est très judicieusement pensée. En s'attelant à un moment particulier de la vie d'Anaïs Nin, on arrive à savoir pratiquement toute son existence, en tout cas des grands moments. C'est aussi une ouverture vers les années 30 et leurs engouements, et on les vit de manière transparente à travers Anaïs. À côté de ça, évidemment, il y a le dessin fragile, houleux, sensible et sensuel, le choix des couleurs et leur retransmission. Bref, c'est un travail remarquable.
Merci Mathieu. La Belgique avec Nathalie Clairin.
Oui, un personnage fantastique, bande dessinée fantastique. Outre la qualité historique, il y a dans cette BD une palette d'émotions qui va vraiment, pour moi, parfaitement de pair avec le fameux crayon multicolore que vous avez osé, et donc l'impression d'un arc-en-ciel constant. Pour cette grande amoureuse et passionnée qu'est Anaïs Nin, vous avez, je trouve, superbement trouvé dans votre dessin les yeux malicieux, ainsi que le mélange de douceur et de caractère qui rend si parfaitement ce personnage multiple, complexe, subtil, je dirais presque onirique.
Voilà, vous avez séduit nos libraires, Léonie.
Merci beaucoup, c'est très touchant d'entendre ça.
Alors moi, je ne suis pas complètement convaincu par ce personnage Anaïs Nin, parce que franchement, elle est un peu dure, je trouve, et elle a une personnalité au-delà d'être sulfureuse, elle fait des choses que vous décrivez, que vous expliquez très bien, qui sont un peu, comment dire, à l'envers de la morale, à l'envers de ce qu'on peut imaginer. Par exemple, il y a cette femme June, qu'elle admire. June, c'est la femme d'Henry Miller, qui vient le voir, parce qu'ils ne vivent pas ensemble à Paris. Et à l'opposé d'Anaïs Nin, June, elle est au-delà de la réalité. Elle use de drogue, d'alcool pour rester comme ça dans une sorte d'illusion. Mais surtout, elle attire considérablement Anaïs au point de l'obséder. Sauf que Anaïs, elle, elle dit « Je veux rester dans la convention. Je ne veux pas perdre pied. » Sauf qu'elle fait pire.
Anaïs, elle est extrême sur plein de choses, c'est sûr. En même temps, j'ai l'impression qu'énormément d'artistes, d'auteurs, surtout à cette époque-là peut-être, mais cherchaient aussi à sortir des conventions, à briser les tabous. Je crois qu'Anaïs, elle a beaucoup été aussi décriée parce qu'elle se donnait, en tout cas jusqu'à la publication posthume de ses journaux, une espèce d'image de sainte. Et elle le dit elle-même, elle est à la fois la sainte et la putain. Mmh. Elle utilise ce mot-là. Donc oui, on peut la condamner. Moi, j'essaie de vraiment ne pas la condamner parce que son écriture et ses revendications me touchent profondément.
Oui, c'est vrai,
je
vous prenez de la
distance. Je ne dis pas qu'elle a choisi... Oui, j'essaie en fait de respecter...
Mais avec son père, par exemple, Léonie. Quand son père réapparaît dans sa vie, en fait, elle va lui céder sexuellement et elle va vivre un inceste consciemment. Elle va accepter ça.
C'est pire que lui céder.
Elle va prendre du plaisir.
Vraiment dans un jeu de séduction avec lui. Ouais. Il y a quelque chose d'extrêmement ambigu. Là, il y a effectivement l'ultime tabou de notre société, mais on sait que l'inceste est beaucoup plus répandu que ce qu'on peut l'entendre et que le véritable tabou, ce n'est pas l'acte, mais le fait d'en parler. Et elle a brisé cet ultime tabou déjà en rentrant à l'âge adulte consciemment dans ce jeu de séduction avec son père et en allant jusqu'à la consommation de cette relation.
Mais elle dira
pendant
mon consentement,
plusieurs semaines, plusieurs mois.
Mon consentement est sans limite, hein, c'est ce qu'elle dit, c'est ce que vous écrivez en tout cas.
Elle dit ça c'est une phrase que j'ai reprise telle quelle dans le journal, et à la ligne d'après, elle dit « une partie de moi est figée d'horreur ».
Et il y a pire encore, on va pas tout raconter, mais il y a encore pire, avec Anaïs qui est enceinte mais qui refuse d'avoir un enfant, elle fera tout pour accoucher d'un enfant mort-né. C'est horrible car à l'accouchement, elle demandera une chose intolérable, insurmontable. On continuera cette discussion, si vous le voulez bien, Léonie Bischoff, puisqu'on vous retrouvera dans la version télé de la librairie francophone sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV, et sur TV5 Monde dans le courant du mois de décembre. D'accord ?
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci Léonie. Anaïs Nin sur la mer des mensonges est paru chez Casterman. À suivre, Hervé Le Tellier, finaliste du prix Goncourt pour son roman L'Anomalie. Vous avez peur de l'avion ? Restez avec nous, vous allez comprendre que la catastrophe possible n'est pas toujours celle que l'on imagine. Avant cela, voici le nouveau titre des Limignanias. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Calamares.
Nu sur la plage.
Chipirones.
Je joue du sitar.
Bocadillos.
Je sais.
Mejillones.
Tu es accablé.
Calamares. Chipirones. Bocadillos.
Tu répètes sans cesse.
Mejillones.
Les mêmes mots.
Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
Ma musculature moyenne, acquise en Mayenne, te fait de l'effet. Tu es accablé. Sur la plage bondée, il est 10h15. Je marche dans la lumière. Tu m'aimes déjà.
Beba Fanta.
Mais tu ne le sais pas.
Chupa chups. Pan casero, motifarra, higo chumbo.
Tu répètes sans cesse les mêmes mots.
Sobrasada. Pan casero, motifarra, higo chumbo.
Je n'utilise mon peigne.
Sobrasada.
qu'une seule fois.
Calentita. Pollo frito.
Puis je le lance sur toi.
Vino tinto. Jamoncito. Calentita.
Tu ne le ramasses pas.
Pollo frito.
Tu dis.
Vino tinto. Jamoncito.
Tu es accablé.
Beva Fanta. Chupa chups. Beva Fanta. Chupa chups.
Un hippie qui s'approchait, tu as souri. Et tu lui as dit
marijuana, 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 marijuana.
C'était les Limignanias et Nouria avec Calentita dans la librairie francophone.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Hervé Letellier.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans la librairie francophone. On pense à vous depuis fin août, Hervé, car on sentait que ce roman allait plaire au public et que tout le monde finirait par en parler. On est en plein dedans. Première question, Hervé, comment vous sentez-vous dans un avion, vous ?
Plutôt bien, c'est-à-dire que j'ai un rapport au voyage aérien assez serein. J'ai pas peur au décollage, pas peur à l'atterrissage. Ouais. Entre les deux, tout va bien.
Alors, entre les deux, vos personnages, ils vivent une mésaventure.
Oui.
Un moment douloureux, vous l'avez vécu vous-même ? Vous êtes inspiré de...
J'ai vécu, oui, comme tout le monde, des moments de turbulence, oui. Jamais aussi graves que les leurs. Mais je me suis un peu renseigné pour savoir comment ça se passait dans un cockpit à ce moment-là.
C'est ça. Alors, le 10 mars 2021, le vol 006 d'Air France sur la ligne régulière Paris-New York est en difficulté. Le pilote alerte les passagers et l'équipage que de grosses turbulences sont à venir. Une masse nuageuse est dans le radar, impossible à éviter. PNC attaché, passagers sanglés, tablettes relevé, et c'est la lessiveuse. L'avion est en chute libre, un trou d'air, comme on dit, un défaut de portance de 10 interminables secondes. Dans le cumulonimbus, c'est un déluge de grêle qui mitraille la carlingue du Boeing 787 et qui fissure les vitres extérieures. Mayday, mayday, code transpondeur 7700. Pourtant, la tour de contrôle demande confirmation. Confirmation plusieurs fois, ce qui est contraire à la procédure d'un avion en détresse. Mais il y a quelque chose qui cloche avec cet avion.
Oui, il y a quelque chose qui cloche. Alors après, tout le choix consiste à dire c'est qui cloche ou c'est qui ne cloche pas. Ce qui est certain, c'est qu'il se passe un événement qui est fortuit, qui ne se reproduit qu'une fois et qui va transformer la vie des 243 passagers et personnel d'équipage qui vont se retrouver dans une situation qu'on ne souhaite à personne et qui vont devoir composer avec de toutes les manières possibles. Et j'ai décidé de suivre à peu près 8 de ces individus, en suivre 3 autres au sol, de venir avoir 11 personnages principaux que je vais essayer de tracer durant 3 grandes parties d'un livre un peu que j'entends souvent définir comme un livre de science-fiction, mais que pour ma part je définis comme autre chose, comme une expérience de pensée.
Alors, une expérience de pensée qui frôle l'anticipation.
C'est vrai, mais...
Qui frôle la science-fiction. Il y a des références, d'ailleurs, de grands films, comme
bien
Star
sûr.
Trek.
Bien sûr.
Interstellar aussi.
Interstellar, Star Trek, ouais. Rencontre du troisième type, Matrix. toute une série de films.
Donc,
ou
vous
de
jouez
séries
avec ça, quand même.
Bien sûr. Hein, bien
vous
sûr.
Jouez avec la science-fiction.
Parce qu'à partir du moment où il se passe un événement improbable et qu'on commence à convoquer des scientifiques, des religieux, on est évidemment dans un univers où on fait appel à de la science, et comme on est dans la fiction, bah, ça s'appelle la science-fiction.
Ouais, c'est ça. Alors, il y a les portraits de certains passagers, vous l'avez dit, dont le pilote, à qui il va arriver un drame bien après l'atterrissage, et un écrivain, Victor Missel, qui va écrire un roman après avoir échappé à cette presque catastrophe aérienne, un roman qu'il nomme L'Anomalie.
Oui.
Comme le titre du vôtre, et il se suicide.
Oui.
Donc, il y a une mise en abîme. Il y a une mise en abîme, comme ça.
Oui, ce qui m'intéressait dans l'idée qu'un écrivain écrive un livre qui s'appelle en plus L'Anomalie, c'est que je ne pense pas qu'on puisse dans un roman mettre un écrivain sans le mettre en situation d'écrire. Donc ça me paraît toujours étonnant de dire qu'un personnage fait tel ou tel métier quand on ne voit pas ce métier en action. Or, donc ça signifie que pour moi, si je mets un écrivain, je mets forcément des écrits de ce personnage. Ça permettait en plus, du point de vue du projet littéraire que j'avais, d'avoir une dimension d'écriture qui était absente spontanément du roman.
En tout cas, l'air de rien, Hervé, vous n'en parlez pas là. Mais quand on vous lit, vous critiquez certains médias, vous critiquez l'hypocrisie des critiques, par exemple.
Je mets ça dans la bouche de Victor Meisel.
Oui, enfin, vous critiquez le monde littéraire avec lui.
Meisel critique le monde littéraire, et il a une vision du monde de la littérature, et en tout cas du petit monde de l'écriture et des critiques, qui est une vision qui est possible, qui n'est pas l'unique possible. Ses positions sont des positions tout à fait sensées, c'est-à-dire que parfois on voit bien que lorsqu'on est soi-même lecteur, on trouve que des critiques encensent des livres qu'on déteste, rejettent des livres qu'on adore. Et donc finalement, j'ai fait de Meisel ce personnage qui est critique de tout ce qui...
C'est ça. C'est la vie,
c'est
en fait.
La vie,
c'est la vie culturelle.
Classique,
Bon, on va voir justement nos libraires, ça vous va, Hervé Letellier? Vous
Bien
savez
sûr.
Qu'on a des libraires dans cette émission. Ils ont lu votre roman L'Anomalie. On va voir ce qu'ils en pensent, le Canada, la Suisse et la Belgique. On commence par qui?
On va commencer par les Belges.
Allez, les Belges. Nathalie Clairin, c'est à vous.
Oui, Hervé Letellier, moi j'aime beaucoup le thème du double, qui est véritable pilier de votre livre, et l'histoire qui nous happe dès le début comme une enquête dans un tourbillon passionnant. C'est aussi complètement original de par la construction. Alors, en Belgique, je ne suis pas la seule à épingler votre originalité. Un petit tour dans la presse nous permet de lire dans le journal Le Soir, je cite, « Hervé Letellier nous propose un plan de vol inédit ». Donc, selon moi, c'est un livre à découvrir vite, si ce n'est pas déjà fait.
Allez, la Suisse, on en parle dans la presse aussi, Claire Renaud.
Oui, on en parle. De toute façon, Hervé Letellier, il est connu dans le monde de la littérature. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai apprécié une fois de plus votre sens de l'humour, d'abord, ce qui est toujours agréable, surtout en ces temps actuels. Et ensuite, évidemment, moi, j'ai trouvé très fin et très subtil. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Hein. Je suis désolée, il y a beaucoup de titres, beaucoup de finesse, de troisième degré.
Les Suisses sont trop modestes.
Mais c'est vrai que moi aussi, il y a des choses qui m'ont échappé.
Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est toujours agréable de refermer un de vos livres, et celui-là en particulier, parce qu'on se sent plus intelligent après.
Bon, allez, le Canada, avez-vous été perdu un petit peu parfois? Il a fallu recoudre les choses, Katia Courteau?
Pas tant, non, mais j'ai été éblouie, je vous dirais aussi. Vraiment, ce fut un pur moment de plaisir. Je me suis vraiment délectée de page en page, Monsieur Letellier. Je vous le dis d'emblée, vous êtes un virtuose du page-turner, mais là, littéraire et philosophique. Et vous arrivez à manipuler le lecteur en lui offrant un livre où la réflexion côtoie la science-fiction et le suspense, mais ainsi que l'humour. Merci d'ailleurs pour les éclats de rire que votre président des États-Unis a provoqué chez moi.
Ouais. C'est vrai qu'il y a des chefs d'État dans ce livre, Hervé Letellier, face à la situation de cet avion qui s'est dédoublé. Des réunions de crise sont organisées à la Maison-Blanche avec un président américain plutôt stupide. Je rappelle que votre histoire se déroule en mars et juin 2021.
Oui.
L'année prochaine.
Oui.
Avec un président américain stupide.
Alors, sans vouloir dévoiler la fin, il y a une lecture possible qu'on découvre à la fin de la raison pour laquelle on aurait choisi d'avoir un président stupide et qui ressemble à un gros mérou affublé d'une perruque blonde. Voilà, il y a une lecture possible de cette situation qui fait que ça pourrait être un embranchement du réel sur lequel on pourrait revenir.
Ouais, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros, en fait, parfois.
Voilà.
c'est vrai, le livre on interprète soi-même ce qui peut se passer.
Mais je pense que c'est important qu'on ait des livres qui sont ouverts et qui permettent effectivement d'avoir chacun sa lecture, en particulier la fin, qui est une fin... ouverte, effectivement.
Vous posez en tout cas la question de notre existence. Sommes-nous vraiment des humains ou sommes-nous des programmes? Ce qui expliquerait nos destins tracés, selon vos personnages.
C'est pas contradictoire. On peut très bien être des programmes programmés pour simuler de manière remarquable des humains. Déjà aujourd'hui, on a des programmes qui simulent le comportement d'amibes. On a des programmes pendant la crise du Covid qui simulent la circulation du virus. Donc on simule finalement, d'une certaine manière, le comportement évidemment embryonnaire du virus, la manière dont il s'accroche. On peut simuler des choses. Tous les scientifiques aujourd'hui qui travaillent dans un domaine expérimental savent qu'ils ont toujours, à un moment donné, lancé une simulation. Donc l'idée, c'est que la simulation est simplement d'une ampleur beaucoup plus grande.
Pourquoi pour l'un de vos personnages, l'écrivain, le Victor, le pire des mots, ce serait l'espérance?
Ça me paraît, enfin, c'est vraiment une chose que je pense. Je pense, c'est pas seulement pour l'écrivain. Mmh. C'est l'histoire de la boîte de Pandore. Mmh. Lorsque Pandore ouvre la boîte, qui est une vengeance de Zeus contre Prométhée, hein, puisque Pandore est la femme qui est promise au frère, à Hippoménée, qui est le frère de Prométhée. Et pour se venger de Prométhée, il lui offre une boîte qui contient tous les maux du monde. Tous les maux du monde, c'est ça qui est important. Donc, le mal qui n'arrive pas à s'échapper de la boîte, qui reste dans la boîte, c'est l'espérance, Elpis. Pourquoi est-elle considérée par Zeus comme un mal? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette idée grecque que l'espérance est un mal? Ben, l'espérance est un mal parce qu'elle nous fait toujours espérer quelque chose et qu'elle nous interdit d'agir parce qu'on espère. Et au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le climat? Qu'est-ce qui se passe avec toute une série de problèmes auxquels la société est confrontée? C'est que nous espérons. Nous espérons que ça va s'améliorer. Il y a toute une courant de pensée qui est une pensée magique qui espère que ça va s'améliorer.
On attend que ça s'arrange. Toujours,
on voudrait que ça s'arrange. Ça s'appelle l'espérance et c'est un mal. Et c'est pourquoi je mène un combat contre l'espérance.
D'accord. Bon, pour en ce moment, c'est difficile quand même. Hein,
non, mais il faut à la fois être, il faut à la fois être dans une situation d'espoir, mais il ne faut pas positif, penser que ça va s'arranger de soi-même. C'est toute la différence.
Quelle est la plus grande anomalie de votre vie, Hervé Le Tellier, pour l'instant, là, jusqu'à aujourd'hui? Quelle est l'anomalie que vous avez vécue extrême?
Extrême, c'est peut-être la naissance de mon fils.
C'est... Il va être ravi. Non, comment s'appelle-t-il?
Il s'appelle Melville, je suis très heureux d'avoir un enfant, mais il se trouve que c'est le moment le plus net dans le basculement de mon existence.
Ah oui, oui. Mais c'est pas une anomalie.
Non, c'est pas une anomalie, mais c'est un écartement de la normale dans laquelle j'étais auparavant, qui était la situation d'un homme sans descendance, sans finalement projet, et la question de la transmission, la question de la filiation est une question qui était totalement nouvelle pour moi. Donc c'est une anomalie dans le cours de mon existence. Donc, est-ce que c'est ça fait pas de mon fils un garçon anormal, mais ça fait en tout cas de son apparition dans ma vie une bifurcation fondamentale. C'est pour ça, moi, la définition que je donnerais de l'anomalie, c'est la rupture d'une continuité.
Merci beaucoup, Hervé Le Tellier.
Merci à vous.
Merci. L'anomalie est parue chez Gallimard, finaliste donc pour le prix Goncourt, qui sera remis lundi. Bonne chance à vous, Hervé.
Merci.
À bientôt. Dans un instant, on part dans une bibliothèque d'Albertville en France, et notre séquence 15 ans avec la comédienne Annie Dupéret pour un livre de photos qui vient de sortir en poche. Avant cela, voici le nouveau titre de Jane Birkin, extrait d'un nouvel album signé Étienne Dao dans la librairie francophone.
Ces amants dans le parc, je les observais. Alors qu'ils s'embrassaient, chuchotant des secrets. Leurs caresses furtives en moi ravivent des plaies. Alors que je gueulais là dans ma tête. Si vous saviez comme je vous envie. Alors que je gueulais là dans ma tête, comme je vous envie. Tous ces amants me rendent malade. Je suis devenue n'importe qui. Pour toi, n'importe qui.
J'étais ta sentinelle, désarmée.
C'était Jane Birkin avec Ta Sentinelle.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et dans cette nouvelle formule, chaque semaine, nous donnons la parole aux bibliothécaires, quelque part dans la francophonie. Aujourd'hui, c'est la France qui est à l'honneur. On vous emmène en montagne, dans une ville célèbre grâce aux Jeux Olympiques de 1992. Bonjour Hélène Guigou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes bibliothécaire à la médiathèque d'Albertville. Magnifique ville.
Oui.
Qu'est-ce que vous voyez par les fenêtres de la bibliothèque ?
Alors, on a la chance d'avoir de larges ouvertures vitrées à la médiathèque. Et face à moi, eh bien, on a vu sur le massif des Bauges, qui a pris des teintes un peu fauves et ocrées. Et puis si je me tourne, eh bien, je peux voir Conflans, qui est une petite cité médiévale qui surplombe Albertville. Et au-delà, on voit le massif du Beaufortin avec quelques traces de neige.
Parfait. Merci pour cette description qui nous fait voyager. Alors, quel grand classique de la littérature avez-vous choisi, puisque c'est le principe de cette séquence? On vous demande un grand classique à conseiller aux auditeurs.
Alors, vous n'allez pas être surpris, j'ai choisi un classique de la littérature de montagne,
oui.
Premier de cordée, de Roger Frison-Roche.
Oui.
Alors, publié en 41, c'est très vite devenu un best-seller, traduit en une trentaine de langues, adapté à l'écran et en BD. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il mérite bien une relecture. D'abord parce que c'est un roman qui nous fait vivre la montagne dans toute sa puissance et son ambivalence, avec des paysages qui sont à la fois sublimes mais terribles. Et enfin, on peut dire que Frison-Roche est un peu le dernier des romantiques. Rien ne manque. On a droit au craquement des glaciers, des séracs, à l'orage, au coucher de soleil. Ce qui explique sans doute que depuis sa parution, le livre n'a pas cessé de susciter des vocations. Et puis il faut le lire aussi bien sûr pour sa dimension romanesque. C'est un roman d'aventure à la narration haletante. Hein, il s'agit quand même d'hommes qui jouent leur vie en montagne. Premier de cordée, bien, c'est un véritable feel-good book, un roman de formation et d'amour qui exalte des valeurs positives et particulièrement la solidarité.
Et, oui.
Et c'est pourquoi le rééditer en poche ce mois de novembre, c'était vraiment une très bonne idée.
Exactement, vous avez tout dit. Roger Frison-Roche, Premier de cordée, qui vient d'être réédité en poche chez J'ai lu. Merci Hélène Guigou.
Merci.
Merci à la médiathèque d'Albertville en France, où on écoute aussi la librairie francophone, bien sûr.
Ah oui, on est des fidèles.
Parfait. Merci Hélène, à bientôt. Pour les 15 ans de l'émission, nous vous proposons des moments de radio qui ont marqué l'histoire de ce programme. Aujourd'hui, voici l'extrait d'un entretien avec Annie Dupéré autour de son livre de photos qui est sorti aussi dans une version poche aux éditions Point.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Annie Dupéré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. 43 films pour le cinéma, 25 pièces de théâtre, autant de films pour la télé, dont la série Une famille formidable, des romans, des récits. Et ce livre, Les photos d'Annie, car malgré cette carrière impressionnante, vous avez été aussi photographe, et pas seulement à vos heures perdues, Annie.
Mais non, j'ai fait pendant 20 ans. En fait, ce livre est sorti parce que un ami m'a demandé de ressortir mes photos argentiques pour inaugurer un nouveau lieu d'exposition dans un village en Corrèze, Saint-Hilaire-Luc, pour tout dire. Et donc, j'ai ressorti tous les classeurs dans lesquels j'avais bien rangé tout ça à la campagne, dans les papiers cristal, effectivement, comme tout photographe qui a développé ses pellicules, ses photos, les tirages et tout. Et j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années.
Et ça commence dans les années 70.
Dans les années 70.
Le déclic, c'est le cas de le dire, ça se passe à Cannes.
Le déclic, j'ai acheté mon Leica parce que j'étais tombée amoureuse d'un appareil qu'on m'avait prêté, c'était un Leica, et surtout d'un objectif. C'est un téléobjectif qui faisait des belles photos avec très peu de lumière. Et j'ai fait pendant 20 ans, très, très gaiement, le labo des nuits entières de la photo de tout ce que j'aimais, paysages, nature morte, portraits de mes camarades que j'appelais des portraits intérieurs, c'est-à-dire portraits un peu volés, portraits de moments d'abandon.
Oui, parce qu'à l'époque, on ne fait pas de portraits, vous le racontez ça. On va se faire tirer le portrait chez le photographe,
oui.
Mais on ne fait pas de portrait, il n'y avait pas les selfies et tout
les
ce
acteurs,
qui va avec.
Les acteurs, moi je faisais beaucoup de books
c'est ça.
Pour mes copains acteurs, parce qu'ils avaient repéré que je n'étais pas mauvaise photographe, et en plus j'étais gratuite. Donc, puisque la photo était le seul moyen pour un acteur de donner envie à un metteur en scène. Ça, j'en ai fait beaucoup, beaucoup.
Vous dites aussi que votre père, donc décédé avec votre mère, vous l'avez raconté dans un livre alors que vous aviez 8 ans, était lui-même photographe professionnel.
Oui.
Et un jour, vous allez vous rendre compte, en ressortant des photos de votre père, que vous avez des accointances avec son regard photographique, en les découvrant, comme un peu le prolongement de son travail.
Oui.
C'est ce que vous avez fait, en fait. Vous avez prolongé son travail.
C'est un petit agrandisseur qui m'a permis de mettre le nez là où je devais le mettre. C'est-à-dire que les photos, les négatifs de mon père, je ne voulais plus en entendre parler, étaient d'abord sous mon lit, dans deux cartons, puis après dans un tiroir que je n'ouvrais jamais. Et puis un jour, mon petit agrandisseur s'est mis à faire des siennes. Entre deux photos, il perdait le point, je ne sais pas pourquoi. Et sur ce, j'ai pensé, tiens, si j'achetais un nouvel agrandisseur qui me permette de développer les négatifs de mon père que j'ai jamais vus, et de quelle taille sont-ils ? Et j'ai ouvert le tiroir, c'était trop tard. C'était vraiment la boîte de Pandore, j'ai ouvert le tiroir, j'ai commencé à regarder les négatifs.
Ah, ouais.
Je n'ai jamais acheté l'agrandisseur, bien entendu. Et voilà, et ça a été le point de départ de ce livre Le Voile Noir, où j'ai commencé, j'ai vu les photos de mon père, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai arrêté de faire du noir et blanc. Parce que le noir et blanc est devenu sacré, le noir et blanc est devenu mon père, ce qu'il m'avait laissé, c'est-à-dire que n'ayant aucun souvenir d'enfance avant la mort de mes parents, que j'ai trouvé mort quand même, ce qui est un traumatisme assez important pour une gamine.
Salle de bain, ils se
voilà, donc
asphyxie.
Une amnésie totale avant, et j'ai eu devant moi des photos qui me prouvaient que cette enfance avait existé.
Vous êtes très pudique en tout cas, dans ce livre, très délicate. Même lorsqu'il s'agit de votre ex-mari, Bernard Giraudot, vous ne dites pas grand-chose. Il y a deux portraits de lui, magnifiques, il est magnifique sur ces photos, vraiment.
Oui.
Et c'est tout.
Bah oui, parce que j'allais pas me raconter. Vous savez, c'est drôle parce que maintenant ça fait quand même, ça fait quelques livres personnels que j'écris. Il y a Le Voile Noir, il y a Les Chats de hasard, qui est aussi une biographie sous l'angle de est-ce qu'on, les périodes où on peut avoir un animal ou pas. Là, c'était effectivement sur qu'est-ce qui vous a dirigé dans la vie ? Est-ce que possiblement une mère dont l'avenir artistique a été brisé par votre naissance, puisque c'était retour à la maison pour la plupart des femmes à cette époque-là, quand on avait un enfant, est-ce qu'elle aurait pu diriger par des signes comme ça ma vie ? Alors du coup, l'autobiographie, je commence à en connaître un petit peu les choses. Il faut pas trahir son angle. C'est-à-dire que si on prend l'angle photographique de la lignée photographique,
on reste là-dessus.
Bien sûr. Ouais. Et si on prend l'angle des signes et de la mer et d'un parcours artistique de ce côté-là, on reste là-dessus.
Voilà. Vous racontez Tata aussi, la sœur de votre père qui vous a élevé. Vous dites c'est l'une des personnes, enfin la personne même, la plus importante dans ma vie. Ouais. Et on remarque qu'il n'y a ni mélancolie, ni tristesse dans vos textes qui accompagnent les photos. Souvent, nous, on a du mal à regarder, Annie Dupéré, les photographies, les anciennes photos qui nous rappellent parfois même des moments heureux, c'est parfois dur à regarder quand même, ou les personnes disparues, et vous non.
C'est le photographe qui parle. Donc, même si c'est des sujets extrêmement sensibles, comme Bernard et ma tante qui m'a élevée, à qui je dois beaucoup de choses, c'est l'œil du photographe qui vit, c'est le photographe qui parle,
mais il y a
c'est un sujet. Bah, bien sûr, il y a un texte, mais un texte qui décrit le sujet.
Ah, voilà. Vous restez dans votre rôle.
Ah, bah oui.
Ouais, vous y arrivez. Et alors, quand vous êtes chez vous et que vous regardez ces anciennes photos,
c'est autre chose.
Comment vous êtes ?
C'est autre chose. Alors effectivement, je disais, quand j'ai découvert les photos de mon père et que j'ai vu l'énorme travail que j'avais à faire pour écrire Le Voile Noir, j'ai arrêté de faire de la photo noir et blanc. Mais ayant constaté que mon père m'avait laissé une trace de mon enfance, sans cette trace, j'aurais pu me dire que j'étais pas leur fille ou que je ne sais pas. J'avais une preuve que ça avait existé. Je me suis sentie le devoir, et cette fois en couleur. Toujours en pellicule, mais en couleur.
Ça répond pas à ma question.
De photographier mes enfants pour leur laisser une trace de leur enfance.
Voilà. Comment êtes-vous quand vous regardez les anciennes photos ? Vous dites dans le livre, quand on parlait de Maurice Cheville, que vous n'avez pas pleuré ce jour-là, mais que vous avez pleuré ensuite. Vous l'écrivez, ça ?
Oh là là, oui.
Bah
oui.
Oui.
Quand j'ai écrit Le Voile Noir, c'était terrible.
Non, mais de voir ces photos, ces anciennes photos.
Non, ça va. Là,
c'est jamais douloureux pour vous ?
Maintenant, ça va.
D'accord.
Maintenant, ça va. J'ai assez pleuré, ça va. J'ai pleuré 4 ans en écrivant Le Voile Noir, ça suffit.
Merci beaucoup, Annie Dupéré. Votre livre, Les photos d'Annie, est paru aux éditions du Seuil. Et donc aujourd'hui, dans une très belle version poche, avec une couverture toilée, chez Point, un joli cadeau, parce que c'est pas cher en plus. Ça nous permet d'aller vers les libraires avec les coups de gueule et les coups de cœur. On commence avec le Canada. Katia Courteau, un coup de gueule, je crois.
Eh oui, un coup de gueule sur la vitesse, Emmanuel. Oui, la vitesse, tout doit aller tellement vite.
Ah oui.
Comme nous sommes à l'ère des communications, des médias sociaux, de la vie qui sprint à 200 en l'heure, savez-vous que les livres n'arrivent pas assez vite sur les tablettes des librairies? En fait, je constate une augmentation des précommandes pour les livres qui ne sont pas encore parus. Alors que nos tablettes débordent déjà de livres disponibles, il faut dire qu'il arrive assez régulièrement que les critiques littéraires parlent un peu trop tôt de certains livres qui ne sont pas parus encore. Et les médias sociaux, eh bien, ils font le reste du boulot.
Mais oui, forcément. La vitesse, ralentissons un peu. Oui, effectivement, vous avez raison, Katia, surtout en ce moment. Allez, un coup de cœur dans le rayon des polars, Mathieu Colombe.
Oui, tout à fait, bien que ça n'en soit pas vraiment un, puisque c'est un roman noir, il n'y a pas de structure policière dedans. Donc c'est un premier roman, en plus d'Alexandre Leno, qui s'appelle « Écorce vive ». On va voir des trajectoires de personnages complètement cabossés se croiser, se télescoper, nous emporter dans un monde qu'on va dire qui va être quand même plutôt noir, il faut bien l'avouer, dans une ruralité très très dure, mais c'est magnifiquement écrit, c'est très très beau. En bref, on souffre avec bonheur.
Bon, dans une région de montagnes et de forêts, ce polar Écorce vive d'Alexandre Leno, aux éditions Actes Sud Babel Noir. Merci Mathieu. La Belgique et le coup de gueule de la semaine de Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Moi, c'est un livre, en fait, intitulé « Poème pour bébé de 0 à 3 ans » qui me laisse plutôt perplexe. Mmh. D'abord, il y a 5 pages, il coûte 14,50 €. Alors, c'est un livre de poésie. Il y a une seule phrase, en fait, un haïku japonais.
Ouais.
Alors, il est en carton de très grand format. Moi, je vois mal un enfant de 1 an ou 2 le manipuler sans se heurter le visage. Et en plus, même à 3 ans, je ne pense pas qu'on puisse profiter d'une métaphore ou d'une inversion sujet-verbe ou même de mots tels que garrigue. Voilà, donc a priori, moi, j'étais enthousiaste à l'idée d'une poésie pour nos petits, mais celle-là, ouais, elle me semble tout à fait incongrue.
Les haïkus, effectivement, oui, pour les petits, c'est un peu difficile. Combien de pages, vous m'avez dit ?
5 pages.
5 pages, d'accord. Pour 14 €.
14,50 €, oui, oui, tout à fait. On
ne fait pas. Ça fait cher la page. Okay. Bon, on n'en parlera pas, donc merci Nathalie. Enfin, coup de cœur, toujours dans le rayon jeunesse en Suisse, Claire Renaud.
Oui, alors moi j'ai le livre qu'on attendait tout Suisse, La Suisse en 15 femmes d'Olivier May aux éditions Ozu Suisse. C'est enfin un livre qui présente alors autant des femmes connues comme Germaine de Staël, Ella Maillard ou Ruth Dreyfus, mais également des plus ignorées. Et il est très agréable à feuilleter, il est joliment illustré et il présente également la vie de ces femmes et leurs idées progressistes quand même dans un monde très conservateur. Bref, vous l'aurez compris, c'est un livre indispensable qui est destiné normalement aux 8-10 ans, mais moi je dirais qu'il est à glisser entre toutes les mains.
La Suisse en 15 femmes aux éditions Ozu. Merci beaucoup, merci Claire, merci à tous les quatre d'être intervenus dans cette émission. On termine avec une musique populaire quelque part dans le monde, dans un pays membre de l'OIF. Voici Jerry Nicole et Slat Karistika, numéro 1 en ce moment en Bulgarie.
Gledaj me, gledaj me, imao sam zimane, a sam često
Un extrait de Jerry Nicole et Slate Karistika, numéro 1 en ce moment en Bulgarie. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Mathias Saléon à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Jean-Marie Félix et Madeleine Teuchère en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet, Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. La semaine prochaine, dans le cadre du Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil, nous serons avec Tahar Benjelloun et Zeina Abirached, entre autres. Merci pour votre fidélité. Bon week-end à tous. Salut.